Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
À toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Des rayons bien remplis qui vous donnent envie de toucher, fouiller, tester. Et des prix si petits que vous achèterez forcément quelque chose.
Un pull, déjà. Des petites bricoles. Ah oui, des chaussons portugais.
Bienvenue chez nos leaders européens du déstockage. Ces derniers mois, parmi les produits alimentaires et autres jouets, ce sont surtout les vêtements de marque bien connus comme San Marina ou Camailleux que les clients s'arrachent.
On ne vient pas pour une liste de courses précise. On vient pour du au cas où, du peut-être. Et finalement, on repart avec des pépites et un chariot plein.
À l'heure où de nombreuses enseignes font faillite, Noz se frotte les mains. Plus 40% de chiffre d'affaires l'an dernier, même si les stocks de grandes marques en faillite ne représentent que 6% de son activité. Le géant du déstockage doit donc se fournir ailleurs et tout se passe ici, en Mayenne. Dans cet open space, 500 collaborateurs parlent 42 langues, avec 230 000 fournisseurs dans le monde entier. L'appétit de l'ogre du déstockage n'est jamais rassasié. 30 nouveaux magasins devraient ouvrir cette année partout en France.
Ces extraits d'un reportage TF1 nous plongent dans le sujet de l'émission, la société de consommation. L'Europe s'est déplacée pour voir des marchandises. S'insurgeait Hippolyte Taine en 1855 à propos de l'exposition universelle. Le capitalisme sous le Second Empire s'installait aisément dans ce monde de la fête impériale. Paris donnait le ton. Le monde des petits métiers allait disparaître avec l'arrivée des boutiques. Les cris de Paris s'éteindront avec les épiceries qui elles-mêmes disparaîtront avec les grandes épiceries et les supermarchés.
Landerneau, 10 445 habitants, 40 épiciers, capitale de l'expérience Leclerc. Depuis 8 ans qu'Édouard Leclerc a ouvert ici son premier magasin, la vie a baissé. Aujourd'hui, Landerneau est devenu, pour les forces adverses de l'épicerie, quelque chose comme... La guerre d'Espagne pour les puissances mondiales en 1936, un terrain d'expérience. Et le petit hangar qui sert d'épicerie à Édouard Leclerc est en passe de devenir un des hauts lieux de l'actualité.
Édouard Leclerc, le public a tellement peu l'habitude de voir un commerçant s'attaquer au problème de la vie chère que pour lui ce commerçant est suspect.
Vous avez déclaré, on l'a lu dans la presse, que vous aviez débuté avec un billet de 5000 francs en poche.
Il est exact, mais en réalité... J'avais quand même, pour moi, le passé d'un père qui était respecté dans toute la région. Et si l'on m'a fait confiance, c'est pour lui et non pour le fils.
Édouard Leclerc, vous, personnellement, quelle est votre ambition? Ça n'est pas l'argent, c'est quoi? La puissance?
Quittant le séminaire, on a toujours l'impression, pour ceux qui ont quitté le séminaire, de trahir son passé. Et... On sent le besoin de se racheter, de vouloir faire quelque chose pour calmer certaines inquiétudes personnelles.
Vous pensez par conséquent que si vous n'aviez jamais été séminariste, Édouard Leclerc, cette énorme aventure qui a lieu aujourd'hui, des chaînes Leclerc, n'aurait peut-être pas eu lieu.
Elle n'aurait jamais eu lieu.
Les détaillants que j'ai vus ici, les petits épiciers de votre ville, m'ont dit que même s'ils souhaitaient faire la même expérience que vous, ils n'en seraient pas capables, qu'ils ne pourraient pas le faire matériellement. Qu'en pensez-vous ?
Il y a plusieurs façons de vouloir, car si on attend que ça vous tombe du ciel sans effort, rien ne se fera. Pour qu'ils puissent le faire, il faut que d'abord qu'ils s'arrangent entre eux et qu'ils achètent ensemble. Mais non seulement qu'ils achètent ensemble, qu'ils vendent aux consommateurs en faisant la différence qu'ils peuvent bénéficier en achetant en communauté. Et de cette façon-là, ils augmenteront leur vente.
Lorsque vous avez commencé cette expérience ici à Landerneau, pensiez-vous qu'elle dépasserait les limites de Landerneau?
Certainement.
Vous le pensez?
Mais je ne pensais pas que ça aille si vite.
Et vous ne pensez pas qu'un jour, justement, le succès de cette expérience, s'il se confirme, vous amènera
à quitter ce cadre provincial qui est le vôtre. Vous ne pensez pas quitter
la
mer?
Non, je ne pense pas quitter la province parce que la vie de Paris, pour moi, ne me dit rien.
Mais pour que le dossier que je vous présente soit complet, j'ai voulu voir aussi l'un de ces 40 petits épiciers que, à Landerneau plus qu'ailleurs, l'offensive Leclerc rend inquiet. Ils s'appellent Monsieur et Madame Lefourne, je les ai trouvés à table dans l'arrière-boutique, à l'heure où la clochette du magasin ne tinte plus que rarement. Quel âge avez-vous exactement, Monsieur Lefourne?
46 ans.
Je ne demande pas l'âge de Madame Lefourne. Vous êtes depuis combien de temps, depuis combien d'années dans l'épicerie?
15 ans.
15 ans, Madame Lefourne aussi?
Oui, monsieur, depuis mes 12 ans.
Ah, bien avant, par contre.
Bien avant.
Oui, vous avez grandi dans l'épicerie.
Dans
vos parents étaient épiciers?
Épicier fruitier.
Oui, vous connaissez bien votre métier,
par conséquent. Oui, monsieur.
Est-ce que vous pensez, d'une façon ou de l'autre, que votre métier, tel que vous le pratiquez aujourd'hui, est devenu, disons, un peu dépassé, démodé?
Et légèrement.
Oui, pourquoi?
Parce que le système Leclerc nous oblige à baisser nos prix et que nous ne voudrions pas baisser parce qu'il nous est impossible de les baisser.
Pourquoi vous est-il impossible de faire ce que fait M. Leclerc?
Parce que nous ne touchons pas la marchandise au même prix.
Pour quelle raison? Vous voulez dire que vous ne savez pas pour quelle raison?
Oh, je m'en doute, mais enfin, je sais que M. Leclerc touche la marchandise moins chère que nous et qu'en plus il a de belles retombées quantitatives et c'est... Et c'est cela qui nous assomme.
Oui.
Nous ne pouvons pas rivaliser contre lui en prix.
Êtes-vous inquiet de l'avenir de votre profession?
Oh, un peu.
Légèrement, oui.
Oui. Pourquoi, monsieur Lefourne?
Parce que si cet état de fait, il a continué, nous devons disparaître un jour ou l'autre.
Ce reportage d'Édouard Leclerc date de juin 1959. On remarque bien le ton lénifiant et innocent que prend cet entrepreneur qui saura faire évoluer ses magasins vers les très grandes surfaces dès 1964, puis vers les hypermarchés en 1976 et dont le fils fait la pluie et le beau temps pour les prix. Leclerc n'a fait que suivre l'exemple de Félix Potin qui en 1844 décidait de vendre beaucoup à bon marché plutôt que peu et cher. Sa devise, à bon poids, bon prix, s'inspirait de son ancien patron, dont Georges Davenel écrivait en 1895 dans Mécanisme de la vie moderne. La révolution commença vers 1840, dans une boutique du Gros Caillou, où M. Bonnereau, âgé aujourd'hui de 90 ans et modestement retiré à la campagne, fut l'initiateur de l'épicerie moderne. L'ancienne était alors, il faut bien l'avouer, un commerce absolument malhonnête dont peu de gens ont gardé le souvenir. On fraudait beaucoup sur la quantité de tous les articles grâce à la connivence des domestiques dont la gratification du sou pour livre n'était pas le seul profit illicite. Monsieur Bonnereau imagina de livrer exactement ce qu'il facturait et de vendre à très petits bénéfices. Ce fut le principe de la gâche. Ainsi nommé parce que les autres épiciers furieux traitèrent ce faux frère de gâcheur du métier et son système de gâchage des prix. La gâche obtint un succès rapide. Le public voyait un libérateur dans cet homme qui, de sa seule autorité, réduisait si audacieusement des chiffres auxquels on s'était depuis longtemps résigné. Le magasin nouveau offrait l'aspect d'un perpétuel déballage au milieu d'un désordre singulier. Aucun luxe, aucun confortable, ni pour le personnel qui prenait ses repas debout, sur des caisses vides en guise de table, il n'y avait pas de chaise, ni pour le client entre les mains de qui les objets étaient remis, enveloppés à peine, mal conditionnés souvent, et parfois de qualité assez médiocre. C'était le défaut de ce réformateur imparfait. Au contraire, son émule, M. Potin, plus tard son continuateur, répétait sans cesse « de la bonne marchandise d'abord, le bon marché après ». Potin avait, comme Bonnereau, l'idée de chercher le succès dans la réduction des prix de vente, mais sans prétendre restreindre tout d'abord les prix d'achat. Ce qu'il sacrifia, ce fut son profit commercial, fidèle au programme qu'il s'était tracé. Des affaires avant tout, le bénéfice viendra ensuite. Dès 1845, Balzac s'inquiétait de l'apparition de nombreuses boutiques qui détruisaient les marchands des rues, ceux que l'on appelait les petits métiers. Aujourd'hui, la boutique a tué toutes les industries subdio, depuis la sellette du décrotteur jusqu'aux éventaires métamorphosés en longues planches roulant sur deux vieilles roues. La boutique a reçu dans ses flancs dispendieux et la marchande de marée, et le revendeur, et le débitant d'issue, et les fruits, et les travailleurs envieux, et les bouquinistes, et le monde entier des petits commerces. Le maroniste lui-même s'est logé chez les marchands à vin. À peine voit-on de loin en loin une écaillère qui reste sur sa chaise, les mains sous ses jupes, à côté de son tas de coquilles. L'épicier a supprimé le marchand d'encre, le marchand de mort aux rats, le marchand de briquets d'amadou, de pierres à fusil. Les limonadiers ont absorbé les vendeurs de boissons fraîches. Savez-vous quel est le prix de cette transformation? Savez-vous ce que coûtent les 100 000 boutiques de Paris, dont plusieurs coûtent 100 000 écus d'ornementation? Vous payez 50 centimes les cerises, les groseilles, les petits fruits, qui jadis valaient 2 liards. Vous payez 2 francs les fraises qui valaient 5 sous et 30 sous le raisin qui se payait 10 sous. Vous payez 4 à 5 francs le poisson, le poulet qui valait 30 sous. Vous payez 2 fois plus cher qu'autrefois le charbon qui a triplé de prix. Voilà, tout est dit. Les biens matériels, comme l'écrivait en 1979 Marc Guillaume dans l'éloge du désespoir, produisent un sujet qui croit en avoir besoin. C'est-à-dire fondamentalement qui croit que quand il les possédera, il sera satisfait. Nous nous persuadons que les objets pourront nous satisfaire, car cela nous permet de méconnaître précisément ce qui nous manque. Le Second Empire a mis en place cet étourdissement, cette frivolité qui firent son rayonnement et qui se terminera par la guerre de 1870. C'est durant cette période que le capitalisme prit son essor. Sous Louis-Philippe, la bourse avait déjà changé les mentalités. C'est à ce moment que ces fortunes rapides vont donner l'envie à toute une classe sociale d'étaler leur argent. Bel attelage, maîtresse élégante et coûteuse, vêtements à la coupe anglaise, etc., etc. C'est à cette époque que les boutiques, tant critiquées par Balzac, étalent le luxe. Et Anatole France, en 1918, dans son roman Le Petit Pierre, s'en souvient avec émotion. « Nous n'étions pas riches, ma mère ne faisait pas grandes dépenses, mais les magasins où elle fréquentait me semblaient d'une étendue et d'une magnificence impossible à surpasser. Le Bon Marché, le Louvre, le Printemps, les galeries n'existaient pas encore. » Les plus vastes établissements de ce genre dans les dernières années de la royauté constitutionnelle n'avaient qu'une clientèle de quartier. Ma mère, qui était du faubourg Saint-Germain, allait au De Magot et au Petit Saint-Thomas. Ce magasin me paraissait immense et rempli de trésors. C'est là peut-être que j'ai pris le goût des arts somptueux qui est devenu très fort en moi et ne m'a jamais quitté. La vue des étoffes, des tapis, des broderies, des plumes, des fleurs me jetaient dans une sorte d'extase et j'admirais de toute mon âme les messieurs affables et les gracieuses demoiselles qui offraient en souriant ces merveilles aux clients indécis. En 1878, dans les soirées parisiennes de 1878 par un monsieur de l'orchestre, on peut lire « Non seulement les quartiers commerçants ont repris leur physionomie habituelle, mais les boutiques sont devenues insuffisantes. La reprise des affaires a reçu une telle impulsion que l'on s'est vu dans la nécessité d'établir en plein boulevard des baraques supplémentaires où se débite une foule de menus objets produits des diverses industries parisiennes. » La Troisième République aussi encourage les boutiques, les magasins, les baraques. Il faut acheter, c'est bon pour l'économie. Un petit intermède avec Gilbert Bécaud chantant le grand magasin.
Moi j'ai rêvé d'un magasin grand comme toute la terre où l'on pourrait s'acheter le printemps. Où l'on trouverait de petits amours pour tous les jours emportés pour 2 francs. Où l'on vendrait un grand amour sous garantie pour toute la vie pour, je sais pas moi, 3 francs. Magasin plein de chocolat fondant pour barbouiller les gentilgarnements. Un quart de lune à Hawaï, aller-retour, service compris pour 100 sous, pour 100 sous. Des petits balles à tous les vents tournant bien rond à Robinson pour 20 ronds. Passons la monnaie, grand magasin plein de merveilles, étalé sur des rayons de soleil. Des pas par milliers qui vont et qui viennent, des mains assoiffées qui prennent, des regards pâmés devant cette aubaine, les bras tout chargés de trésors, des ascenseurs foudroyants qui vont tout droit vers la lune. Et parmi tout ça, un banquier qui pleure de voir son argent qui fout le camp. Moi j'ai rêvé d'un magasin grand, 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 comme toute la terre, avec un premier étage un second étage, un troisième étage, un quatrième étage. Et là-haut, damoiselle, à l'étage hirondelle, vous aurez du ciel bleu en 140 de large. Avec un amoureux qui fait le pitre en marge.
Marinette, Marinette, je vous aime.
Le Second Empire vit la naissance de la Belle Jardinière, du colosse de Rhodes, dont le propriétaire eut l'idée d'installer une usine dans la colonie pénitentiaire du Petit Bourg, l'actuel Évry, faisant travailler les jeunes détenus que guettait une oisiveté malsaine pour augmenter ses bénéfices. Évidemment, la raison de façade était de donner à ces jeunes une profession honorable et lucrative. Ses bénéfices lui permettront d'ouvrir un autre magasin qui disparaîtra en 1869 pour laisser place aux Folies Bergères. Mais c'est aussi l'émergence des magasins réunis, du siège de Corinthe, qui n'offre pour clôture qu'une grille très solide, quoique très élégante, qui pendant la journée se replie et rentre de chaque côté dans les murs pour laisser libre un vestibule semi-circulaire donnant accès aux magasins du rez-de-chaussée du premier étage. Lorsque cette grille est fermée, le passant peut toujours apercevoir, à travers le travail serré de son réseau de serrurerie, une partie des rayons et comptoirs, des galeries inférieures et la double révolution de l'escalier conduisant aux galeries supérieures. Si ce système de clôture à claire-voie vient à se généraliser, l'œil ne sera bientôt plus blessé par l'aspect attristant et délabré que présentent nos magasins pendant les jours fériés. Écrivait l'illustration en 1869. On trouve aussi à la ville de Saint-Denis, au 91-95 rue du Faubourg-Saint-Denis, dont les galeries inondées d'air et de lumière forment quatre étages auxquels on monte non par un escalier, mais par un ascenseur mu par une force hydraulique, pouvait-on lire en 1869 dans Le Monde illustré. Et enfin, La Paix, inaugurée en 1869 et qui inspira Zola pour son roman Au bonheur des dames. Sous la Troisième République apparurent les grands magasins que nous connaissons encore. En 1872, au Bon Marché, après 3 ans de travaux, ouvrait ses portes sous les yeux satisfaits des propriétaires Aristide et Marguerite Boussicot.
L'histoire du Bon Marché, c'est d'abord celle d'un homme, Aristide Boussicot, un jeune Normand qui monte à la capitale à l'âge de 19 ans en 1829. À l'époque, le petit commerce est encore basé sur des principes traditionnels. Les magasins sont très spécialisés et proposent un choix restreint d'articles. Il faut toujours s'adresser à un vendeur. Les prix ne sont pas affichés, ce qui génère d'interminables marchandages, le prix étant finalement souvent fixé à la tête du client. Mais les magasins de nouveautés commencent à faire une timide apparition. Vitrines attrayantes, entrées libres, affichage des prix. C'est dans l'un de ces magasins modernes, au Petit Saint-Thomas, situé rue du Bac, qu'Aristide Boussicot se fait engager comme vendeur. L'homme, ambitieux, s'associe quelques années plus tard avec un certain Paul Vidot qui a créé, peu de temps auparavant, un magasin de nouveautés situé à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac, le Bon Marché. Boussicot fourmille d'idées. Tout d'abord, il instaure la vente à petits bénéfices fondée sur une rapide rotation des stocks. Le succès est tel, le chiffre d'affaires du Bon Marché bondissant de 450 000 à 7 millions de francs en quelques années, que Paul Vidot prend peur et cède toutes ses parts pour une bouchée de pain à cet associé trop ambitieux pour lui. Voici donc Boussicot, seul maître à bord. C'est maintenant qu'il va créer le concept du grand magasin, un magasin dans lequel on trouvera tout et non plus seulement des articles de textile. Pour cela, il faut une architecture révolutionnaire. Ne vous fiez pas à l'apparent classicisme de la façade. Derrière les pierres se cache une structure de fer qui permet l'installation de larges baies vitrées et l'aménagement d'immenses espaces bien dégagés à l'intérieur. Le succès est fulgurant. De la lingerie à l'ameublement, en passant par la papeterie, les jouets, la vaisselle, etc., etc., on trouve tout au bon marché. Boussico innove à tout va. Création des saisons, comme le mois du blanc, recours à de nouvelles formes de publicité, vente par correspondance, expédition gratuite des articles chez les clients et surtout, ce fameux principe dont le slogan fait toujours mouche aujourd'hui, satisfait ou remboursé. Quant aux clients qui arrivent de loin, ils n'ont qu'à traverser le square Boussico pour se rendre dans le palace Art déco, le Lutetia, que Madame Boussico a fait construire tout exprès pour eux. Pour faire tourner cet énorme magasin, il faut un personnel conséquent. Chef de rayon, second et une kyrielle de vendeurs et vendeuses, souvent des jeunes filles arrivant de leur province et qui sont logées dans des chambrettes sous les toits du bon marché. Le travail est harassant, même si Boussico, sous l'influence de sa femme, a développé un système paternaliste très avancé pour l'époque. Journée de travail réduite à 12 heures au lieu de 16, rémunération à la commission, assurance maladie, caisse de retraite. Le bon marché sera maintes fois copié au long du 19e siècle, parfois par des anciens du bon marché eux-mêmes, comme pour le printemps.
C'était un extrait de Carambolage sur Arte. Aujourd'hui, le bon marché est évidemment entre les mains de Bernard Arnault. Et il n'est plus le bon marché, mais l'onéreux marché. En 1877, c'est au tour des grands magasins du Louvre d'éblouir Paris. Dès l'entrée, on jouit d'un coup d'œil vraiment magique. Ce qui frappe d'abord, c'est le lointain. À une distance de 100 mètres derrière de hautes arcades, on aperçoit un magnifique perron de pierre à double évolution conduisant à un premier étage. C'est l'escalier d'honneur de l'hôtel du Louvre qu'on voit dans son entier à travers la muraille des glaces qui forme le fond de la galerie des soieries. Plus avant, les quatre faces du hall apparaissent avec leurs belles arcades surmontées d'un balcon. À droite et à gauche, les ascenseurs, constamment en marche, montent au salon des robes, des costumes, des vêtements d'enfants, des trousseaux, des layettes qui occupent le premier étage. De larges escaliers entourent ces ascenseurs et forment à hauteur d'entresol des paliers desservant les salons des modes, des rayons de tapis et étoffes pour ameublement. Une immense voûte de verre couvrant tout le hall laisse passer la lumière du jour tout en tamisant les rayons du soleil. Le soir, les lustres innombrables répandent dans le grand vaisseau et les galeries qui l'enveloppent leur éblouissante lumière mille fois répétée par les glaces. C'est une féerie avec un merveilleux décor de fond, toujours brillant, toujours animé. S'émerveillait Alfred Donnet dans l'illustration du 7 avril 1877. En 1881, le printemps, tel le phénix, renaissait des cendres de l'incendie qui avait totalement détruit le premier magasin béni par le curé de la Madeleine en 1874. Jalusot, le propriétaire, fit appel à la bourse de tous pour élever un palais là où il n'y avait plus que des décombres noircis, lit-on dans le Figaro de 1883. Et une courriériste de ce même numéro écrit « La femme se sent chez elle au printemps. Tout y est agencé, ordonné et aménagé au point de vue de ses tendances et de ses goûts. Elle va dans les autres magasins, mais c'est au printemps qu'elle retourne. » Yvette Guilbert, la grande chanteuse réaliste, peinte par Toulouse-Lautrec, se souvient dans « Vendeuse au printemps », 17 ans, longue, mince, fragile, d'une pâleur étrange, peau de camélia, je sortais de la maison de couture Antenard, où j'étais mannequin, pour suivre Madame Barutel, femme connue de toute la couture de 1882, et que les magasins du printemps voulurent s'attacher pour diriger le rayon de robe. Chez Antenard, Madame Barutel avait une clientèle exceptionnellement aristocratique qui la suivit au printemps. Elle s'était intéressée à moi et me prit avec elle, 50 francs par mois, et la guelte de 5% sur toutes les ventes. Je me faisais de 150 à 175 francs par mois. Mais mais je les dépensais presque en chaussures, tant mes pieds martyrisés par la fatigue enduraient mal des souliers achetés tout faits et durs de cuir. Je souffrais affreusement de l'obligation de rester debout, sans jamais m'asseoir, de 9h du matin à 9h du soir. Oh, ces minutes assises des repas, je ne pouvais pas manger tant la fatigue, enfin reposée, m'envahissait toute. Ce grand magasin sera encore transformé en 1907, mais il devait disparaître dans un incendie en 1921, heureusement reconstruit aussitôt. Heureusement pour les acheteuses. Mais en 1883, Jules Vallès, dans la France du 23 mars, écrivait « Devant les bazars de nouveautés, d'autres richesses s'étalent dont la vue ne coûte rien. Celles qui vivent d'économies et de privations, qui rognent surtout pour arriver à tenir le ménage propre et honnête, qui pâtissent mais finissent par nouer les deux bouts parce qu'elles serrent la corde sur le ventre comme une ceinture de lutteur. Celles-là qui ont de ces désirs souvent voilés mais toujours tapis dans le cœur des femmes, coquettes que la pauvreté et la vertu condamnent au platonisme du rêve, trouvent par ces jolies heures de printemps l'occasion de toucher aux fruits défendus, d'y toucher des yeux, des mains, dans les écroulements de déballage du Louvre, du Bon Marché ou du Printemps. Les gens qui tiennent ces bazars pomperont l'argent de Paris, mais ils régaleront ces prunelles et laisseront pétrir leurs marchandises par les doigts mêmes des pauvres parce que cela amène la foule devant la baraque et vaut une bande de musiciens et de 100 clowns s'époumonant et se disloquant autour d'un cirque. Parce que cela aussi tente les plus sages et que du bas de laine des vieilles provinciales et du porte-monnaie fané des ouvrières, comme des bourses des millionnaires, l'argent sortira par petites et grosses gouttes pour glisser jusqu'à l'écuelle du caissier. Peut-être que la rage poussait Jules Vallès à écrire dans un style emphatique, mais sa lutte contre le capitalisme était sincère. À la veille de la Première Guerre mondiale, en 1913, c'est le BHV qui ouvre ses portes. En 1926, le public voit enfin la fin des agrandissements de la Samaritaine, inaugurée en 1905. En 1931, les trois quartiers, tels que l'ont connu les gens de ma génération, devient ce que l'on appelait une machine à vendre. Car l'ancienne conception d'un magasin de nouveautés, qui n'était qu'une grande mercerie, est aujourd'hui périmée, car on y vend de tout et aussi vite que possible. Il faut donc que l'organisation soit orientée vers ses buts divers qui s'enchaînent. Acheter, attirer les clients, vendre, faire payer, livrer les marchandises. Dans la coulisse, une multitude d'objets divers doit d'abord être entreposée, puis après la vente, classée, emballée. Un monde d'employés doit être recruté, commandé, nourri, soigné et payé. Enfin, une administration omnisciente doit veiller à l'équilibre financier de tout l'édifice. L'étude architecturale d'un magasin doit débuter par l'élément essentiel de toute opération, la vente. Et aussitôt se pose la question de la présentation. Doit-on entasser les marchandises, donner l'idée d'un grand déballage, forcer le public à circuler, presser, bousculer dans un grand labyrinthe, lui faire perdre la tête, ou bien au contraire, présenter méthodiquement les objets dans une ordonnance impeccable pour que l'acheteur fasse son choix avec sérénité, écrivait l'architecte Louis Faure d'Hujaric dans Architecture d'aujourd'hui en 1932. Mais ce magasin aujourd'hui oublié fut le doyen des grands magasins puisque c'est en 1829 qu'il ouvrit ses portes. Sous Charles X aussi, on avait compris comment se servir des désirs des acheteurs. Dawson a laissé en 1929 ses souvenirs d'employés de magasin. L'ouverture du magasin avait lieu à 8h30. La sortie n'avait lieu qu'à des heures tardives et irrégulières. En effet, à cette époque, les étalages étaient faits chaque matin, remis en ordre vers midi et en parfait état de présentation le soir entre 7h et 8h, de façon à retenir l'attention des nombreux promeneurs qui, après dîner, venaient flâner entre la Madeleine et l'Opéra. Il était courant, à moins de très mauvais temps, de voir d'assez nombreux clients entre 9h et 10h. Les plus nombreuses ventes étaient faites par le rayon de ganterie aux personnes se rendant au théâtre ou à une réception. Un peu avant 10h, le magasin n'ayant plus que quelques attardés, on procédait à l'enlèvement des marchandises en étalage, celles-ci étant rangées dans les rayons respectifs, et la sortie n'était sonnée que lorsque tout était en ordre. Pour les jeunes gens débutants et pour les garçons de magasin, le service était ininterrompu. car ils couchaient tous sur les comptoirs. À la fermeture, les garçons procédaient au balayage, puis faisaient leur lit, et le lendemain, à 6 heures, ils frottaient le premier étage, astiquaient les cuivres, essuyaient les glaces, etc. Le dimanche matin, ils nettoyaient à fond le magasin, alors que les jeunes gens faisaient la livraison des marchandises promis. Le véritable temps libre dont disposait ce personnel se bornait aux après-midi des dimanches et jours de fête. Cette règle fut appliquée jusqu'en 1897, époque à laquelle M. Georges Potier, succédant à son père, prit la direction, sans cependant qu'une heure fixe de sortie soit adoptée. Le temps de présence fut réduit d'environ une heure. À la fin de 1900, la sortie eut lieu par intermittence, à 20 heures, le personnel ayant dîné. Et en 1979, la question de l'ouverture des magasins le dimanche était au centre des discussions gouvernementales.
Héritage chrétien devenu acquis social, le repos obligatoire du dimanche se fendille chaque week-end. Chez nous, au mépris de la loi et à défaut d'obtenir des dérogations parfois dignes de Courteline et curieusement accordées selon les départements, certaines grandes surfaces préfèrent supporter de très lourdes amendes plutôt que de faire coïncider repos hebdomadaire et fermeture dominicale, le dimanche représentant le tiers du chiffre hebdomadaire. Pour les petits commerçants, il y a concurrence déloyale. Actuellement, les dérogations d'ouverture contournent la loi Royer, limitant l'implantation des grands. Pour les organismes de consommateurs, l'assouplissement des dérogations doit être équitable. Autrement, c'est avantageux pour les employés et pratique pour le public, certes contraint d'acheter le dimanche. Solution, un aménagement des horaires et des transports en semaine. Quant aux acheteurs du dimanche, c'est un oui franc et massif. Mais pour les syndicats, pouvoir prendre son congé ensemble reste capital dans la qualité de la vie pour les acheteurs comme pour les travailleurs. D'ailleurs, dans ces hypermarchés, parmi le personnel qui ne peut pratiquement pas refuser de travailler le week-end, malgré l'intéressement de tous aux ventes du dimanche, l'ouverture ne fait pas l'unanimité dans les familles.
À notre avis, il n'y a aucun avantage à ce que les magasins soient ouverts le dimanche. Bon, on nie pas qu'il y ait, que les travailleurs aient des difficultés pour faire leurs courses. Bon, mais ça, c'est dû essentiellement à la durée du travail, au temps de transport et aussi aux charges qu'ont les familles, c'est-à-dire s'occuper des enfants, les tâches ménagères. Bon, et que pour nous, la solution, c'est pas d'ouvrir les magasins le dimanche, c'est pas de prolonger les nocturnes, mais c'est la réduction du temps de travail.
Remède CFDT, la semaine de 35 heures permettant aussi au public d'acheter en semaine, les besoins restant les mêmes de toutes les façons. Et puis, si la liberté d'entreprendre doit demeurer toute la semaine, il faut une politique de loisirs rendant au dimanche sa vocation, car la machine à consommer, agréable, voire euphorique, nous incite sans trêve ni repos. Et avec cette escalade à l'ouverture, on parlera bientôt de dimanche ouvrable.
Ces extraits sont tirés des archives de l'INA. Je voudrais finir l'émission avec la réflexion d'un philosophe. Bonjour Thomas, tu vas donc nous éclairer sur cette expression « société de consommation ».
Bonjour Jeanne. Oui, j'ai l'habitude de qualifier l'expression de société de consommation de pléonasme, parce qu'évidemment toute société est organisée de manière à rendre possible la production et la consommation de manière harmonieuse. C'est pourquoi il arrive qu'on qualifie cette prétendue société de consommation de société de surconsommation, qui indiquerait que le phénomène de consommation des biens est trop important dans cette société. Mais toute la question se pose alors de savoir trop important au regard de quelles normes et de quelle normalité. En réalité, si on s'interroge sur ce phénomène de surconsommation et qu'on essaie de déterminer ce que seraient des besoins minimums, des besoins vitaux, eh bien on se rend compte que établir cette norme est impossible, en effet, impossible de manière concrète. De manière plus fondamentale, on peut aussi remarquer en réalité que ce que nous appelons culture est précisément l'expression de cette surconsommation. Ce que nous appelons culture de manière générale, c'est dans notre manière de vivre tout ce qui est en surplus, en excès par rapport à cette prétendue consommation normale qui correspondrait à de prétendus besoins nécessaires, besoins vitaux, besoins minimums. En revanche, une remarque et une analyse permet de trouver un critère pour distinguer ce que l'on peut trouver admissible, sain ou raisonnable comme besoin de besoins que nous pourrions juger comme des besoins condamnables ou en tout cas des besoins qui seraient néfastes à notre vie. Cette remarque concerne le rapport qui existe entre les besoins, la consommation et le capitalisme tel qu'il a été défini par Marx. En effet, pour Marx, le capitalisme, au fond, ça signifie avant tout qu'un investissement peut donner lieu au dégagement de ce qu'il appelle une plus-value, c'est-à-dire que le travail salarié produit plus de valeur d'échange qu'il n'en consomme. De sorte que le salaire versé au travailleur qui lui permet de se procurer les biens de consommation nécessaires à sa survie, et disons à sa vie dans ce système, ne concerne qu'une partie de son temps de travail, tandis qu'une partie supplémentaire du temps de travail restera le bien de l'investisseur et donc constituera, une fois la marchandise produite et vendue, sa plus-value, c'est-à-dire finalement une somme d'argent supplémentaire par rapport au capital qu'il avait investi. Marx montre que ce système inverse l'économie de marché traditionnelle, puisque dans celle-ci, un détenteur de marchandises échange celle-ci contre de l'argent pour ensuite l'échanger à nouveau contre une autre marchandise, c'est-à-dire qu'il vend la marchandise qu'il possède et dont il n'a pas l'usage pour de l'argent avec lequel il se procure une marchandise différente dont il a l'usage. Marx résume ce fonctionnement par le schéma MAM', c'est-à-dire marchandise, argent et autres marchandises. Dans le capitalisme, les choses sont toutes différentes. Le circuit commence par l'argent investi, c'est-à-dire l'argent détenu par le capitaliste qui a été capable de l'accumuler. Et donc, ce nouveau schéma, AMA', exprime que cet argent est investi dans une marchandise particulière, qui est un outil productif, une usine, une entreprise, etc., dont le but unique est d'augmenter la masse d'argent primitive, c'est-à-dire d'obtenir par la vente des produits quantité d'argent supérieure à celle qui a été investie. Donc AMA'. C'est dans le cadre de ce type de société que nous parlons présent de société de consommation ou de société de surconsommation, c'est-à-dire que nous avons bien le sentiment que la consommation des marchandises a quelque chose de faussé, c'est-à-dire qu'en réalité, elle sert une cause, une finalité qui lui est externe, c'est-à-dire qu'en réalité, tout est organisé pour que nous consommions des biens qui ne nous sont pas non seulement nécessaires, mais qui ne sont pas nécessaires à nos projets de vie, à nos désirs, à notre épanouissement personnel, mais qui secrètement servent une autre cause. Et cette autre cause, nous la connaissons tous en réalité, puisque c'est l'accroissement du capital. Dans ce cas, nous pouvons donc parler de manière plus propre de société, non pas de surconsommation, mais de société de surproduction, puisque c'est une société qui est organisée autour d'un projet. Ce projet, c'est bien d'accroître le capital et donc de produire plus que nous n'aurions consommé sans la mise en place de ce système. À partir de cette conceptualisation des choses, nous devons comprendre que toute cette société que donc je préfère appeler de surproduction plutôt que de surconsommation est entièrement organisée en inversant les finalités de la vie, puisque ici il ne s'agit pas de produire ce qui est nécessaire, non pas à notre simple survie, mais ce qui est nécessaire à nos projets de vie, à nos projets d'existence, à la société que nous désirerions, à la vie que nous voudrions mener et préparer pour notre descendance, mais qu'il s'agit en réalité d'une société dans laquelle on nous fait consommer des biens qui ne sont pas en réalité ordonnés à cette finalité-là. Et évidemment, nous savons ce qui permet cette inversion de finalité, c'est tout simplement l'immense construction de la publicité, de la réclame de manière la plus générale, c'est-à-dire de la circulation des images qui sont destinées à produire des désirs induits par ces images et également beaucoup de frustration pour qu'en permanence nous nous sentions en manque de quelque chose qui serait à acheter et donc qui permettrait de réaliser les marchandises sur le marché et ainsi d'augmenter le capital. Donc je crois que pour cette raison, il serait plus juste de parler de société de surproduction que de société de surconsommation, tout simplement parce que remplacer un terme par l'autre nous permet de comprendre ce que je viens d'expliquer et donc de distinguer clairement ce qui relève de la culture, c'est-à-dire d'une surconsommation qui s'ordonne à nos projets de vie et non pas une surproduction qui, elle, en réalité, s'ordonne au désir, je dirais, pervers et morbide d'augmentation indéfinie du capital.
Merci Thomas.
Dans les grands magasins, on vend des croûtes coupées avec des petites mains, avec des petits pieds, avec des petits seins. Dans les grands magasins, on vend des petites poupées qui ressemblent à des dames, repeintes au rouge baiser, repeintes en macadam, dans des bas 15 deniers. On y vendra bientôt des poupées de divan, des mannequins au corps chaud, pour que les adolescents et leurs papas gâteaux se payent de temps en temps des Vénus des Sèvres. Des Vénus des Sèvres. Dans les grands magasins, on vend des mitrailleuses pour les charmants bambins, la panoplie honteuse du futur assassin. Dans les grands magasins, on vend aussi des plombs pour tirer les moineaux, des fusils, des cartons épinglés dans le dos et des petits canons. On y vendra bientôt mignonnes guillotines, chambres à gaz et fourneaux et petites usines pour faire en mécano, pour refaire en vitrine, Ravensbrück et Dachau, Ravensbrück et Dachau. Dans les grands magasins, les adultes fabriquent les apprentis terriens, les gosses électroniques, les robots de demain. Dans les grands magasins, ours et poupées végètent auprès des arlequins, et les parents achètent aux chéris des bouquins de guerre et de conquête. Mais dans les magasins fardés multicolores, décorés de sapins, bardés de boules d'or, un enfant cherche en vain, un enfant cherche encore sa lampe d'Aladin et son îlot trésor. Dans les grands magasins, le Père Noël est mort.
C'est sur la chanson de Christine Sèvres, Dans les grands magasins, que je souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang 89.7 FM.